Chapitre 12. Apparition dans la nuit. Otto Stein regarda Kressler. Il le vit pâle, hagard, les yeux injectés de sang, haletant. Il le crut devenu fou et balbutia. « Mais si nous continuons ainsi, le navire... »« Assez !» coupa Kressler brutalement. « Va te placer à la barre et tiens-toi prêt à gouverner vers le nord du monde. » Moi, j'ai le bras gauche cassé et souffle les tortures de l'enfer. Ben, la machine va pas tarder à repartir. Il faut échapper au croiseur, il n'y a pas d'autre moyen. Dans ce tiroir, allez, ouvre-le. Tu vois, il y a un petit compas au radium. Il lui suffisamment pour te permettre de trouver le nord. Nous passerons ou nous coulerons. Otto Stein ne trouva pas de réponse. La terrible logique de son chef le terrifiait. « Mais va donc !» ordonna sèchement Kressler en le poussant rudement de son bras valide. Stein faillit trébucher et put tout juste se retenir au bouton de la porte. Il ouvrit le battant et disparut dans les ténèbres du dehors. L'Adler, complètement stoppé, maintenant dansait comme une plume sur les flots en démence. Les boiseries gémissaient et les épontilles craquaient à chaque soubresaut. Il était bien évident que le petit bâtiment ne soutiendrait pas longtemps les assauts de l'océan et se disloquerait. Kressler, conservant à peine son équilibre, parvint à ouvrir une armoire dont le battant lui heurta violemment le front. Il en tira une boîte de fer blanc remplie d'objets de pansement et la posa sur la table des cartes. Mais comme il s'exprimait à l'ouvrir de sa main valide, l'ampoule électrique éclairant la cabine rougit et s'éteignit. Ce furent les ténèbres. Kressler grinça des dents. Les choses allaient mal, décidément. L'eau avait dû éteindre les dernières chaudières, causant ainsi l'arrêt des dynamos qui produisaient le courant électrique. Quelques secondes durant, le bandit, malgré sa sauvage énergie, resta immobile, abattu sous ce nouveau coup. Mais cet accès de faiblesse fut court. Péniblement, Kressler, s'étant arc-bouté et calé dans l'angle de la petite pièce, saisit de sa main droite son bras gauche inerte, le souleva et, retentant un gémissement de souffrance, parvint à introduire son membre brisé dans la poche de sa capote, ce qui le soutint un peu. Le bandit, suant de douleur, rouvrit la porte et ressortit à tâtons. Rampant le long des mains courantes, son bras meurtri se heurtant aux roufles à chaque secousse du tangage, il réussit à atteindre le porte-voix et hurla sous les coups de mer « Hello, hello !» Rien ne répondit. Il renouvela ses appels d'une voix farouche. Un faible son arriva enfin à son oreille, la voix du chef mécanicien. « Le tangage a décelé la dynamo de son socle. Il y a eu un court-circuit, mais nous allons pouvoir repartir. Les pompes fonctionnent bien. »« Mais dépêchez !» clama Kressler. « Dépêchez ou nous sommes perdus !» Il ne reçut pas de réponse. Le mécanicien avait quitté le porte-voix. Le bandit, dans les ténèbres, rejoignit Stein, cramponné à la petite roue du gouvernail, et s'accrocha à lui. « Bourbard et les matelots » questionna-t-il. « Où sont-ils ? » ?»« Mais dans la cuisine, à Urbri, à l'abri !» lui hurla Stein dans l'oreille. « Oh oui, mon deux, ici, avec des fanaux. La dynamo est hors de service, mais nous allons partir. Donnez-moi la barre. » Stein obéit sans enthousiasme. Une randonnée sur le pont, incessamment balayée par la mer, ne lui causait aucune joie. Il disparut dans les ténèbres. Presque aussitôt, la cloche accrochée près du porte-voix tinta faiblement, indiquant que la machine était prête à repartir. « On peut remettre en route !» alla hurler Kressler dans l'embouchure de cuivre. « Oui, il y a assez de pression pour tourner à 40 tours. » Dans une heure, on pourra augmenter. En avant, alors ! La machine s'ébranla, Chrysler, entêté comme un Prussien qu'il était, dirigea l'Adler vers le nord. Le petit navire vira lentement et de nouveau engagea sa lutte désespérée contre le vent et l'océan. Une lutte dont l'issue ne pouvait que lui être fatale. De formidables montagnes d'eau s'abattirent sur lui, arrachant chaque fois quelques nouvelles organes. Manche à air, embarcation, claire-voie, étincelle. Chrysler, s'orientant vers le petit compas lumineux fixé à son poignet, ne céda pas. Et les marins qu'il avait envoyés chercher n'arrivèrent jamais. Ainsi que le bandit le sut plus tard, trois d'entre eux avaient été enlevés par les lames. Mais, à l'improviste, le vent cessa avec une soudaineté terrifiante. Plus un souffle d'air, un calme de mort. L'Adler avait atteint le centre du cyclone, et à moins d'un mile sur la gauche, Chrysler distingue des points lumineux. La Mermaid! Ainsi les éléments, plus forts que la volonté des hommes, réunissaient les deux navires, bien qu'ils eussent chacun suivi une route différente. Chrysler, les traits tordus par la fureur, se mordit les lèvres jusqu'au sang. Il avait risqué de perdre son navire. Il avait fait à demi démolir par les lames. Il s'était cassé le bras, et tout cela pour se retrouver avec le croiseur. Mais presque aussitôt, une pensée le fit imperceptiblement sourire. Si lui voyait la Mermaid, les officiers du croiseur ne pouvaient voir l'Adler, dont toutes les lumières étaient éteintes à la suite de l'avarie des dynamos. Rien n'était perdu, d'autant plus que les deux bâtiments, plus que jamais, suivaient une route différente. La Mermaid avait l'avant tourné vers le sud-est, approximativement, tandis que l'Adler se dirigeait toujours vers le nord, où peu s'en fallait. Chrysler, profitant du calme, siffla pour appeler les matelots. Presque aussitôt, Stein et Hurbach arrivèrent sur la passerelle, avec quatre marins portant des fanaux qui furent immédiatement accrochés au montant des tentes encore en place. Stein apprit alors que trois matelots avaient disparu et que deux autres avaient qui une jambe cassée, qui un bras. La machine où les pompes d'épuisement fonctionnaient à toute allure, l'eau baissait avec d'autant plus de rapidité que les coups de mer avaient cessé d'en déverser de nouvelles. Plusieurs matelots étaient occupés à calfater les claires-voies et les écoutilles disloquées par les bonds du navire. Oh, dans quelques minutes, nous serons de nouveau dans l'ouragan et dans l'endroit le plus terrible, maugréa Stein. Pour moi, je suis persuadé que l'Adler ne résistera pas aux lames. Nous nous noierons comme des chiens, sûrement, murmura Hobart, à qui la crainte de mourir donnait une hardiesse inaccoutumée. On pourrait peut-être, insinua Stein, tirer vers le. Assez, coupa Stressler. Je tiens de ma peau autant que vous. Mais moi, je sais ce que je fais. Nous devons absolument dépister le croiseur. Croyez-vous qu'il ne va pas nous chercher? Il possède des appareils de TSF et peut-être n'est-il pas seul dans cette partie de la Pacifique, d'autant plus que nous sommes sur la route que prennent les pêcheurs de phoques. Le cyclone passé, la Mermaid nous cherchera. Il faut que nous soyons dans le seul endroit où nous ne devrions pas être. Je veux dire, dans le nord-est du cercle dangereux du cyclone. Nous devons donc passer, nous passerons, ou nous irons au fond. C'est plus propre, plus rapide et moins désagréable que d'être pendu, n'oubliez pas. Vous, Stein, vous resterez ici avec moi. Vous allez m'aider à panser mon bras. Mettez un homme à la barre, prenez le compas qui est à mon poignet. Et la route au nord, au nord. Vous, Omar, passez vite une tournée d'inspection sur le pont pour vous assurer qu'il n'y a pas d'avarie dangereuse. Jetez à la mer tout ce qui pourrait gêner la manœuvre ou démolir les roufles ou les écoutilles. Oh, il y a longtemps que les lames ont tout balayé, grommela Stein. Tant mieux, le travail est fait, rétorqua tranquillement Chrysler. Arrive ici, toi, et prends ce compas. Ce disant, ayant lâché la roue du gouvernail, il tendit son bras valide au matelot qui s'était avancé, afin qu'il pût prendre possession de la petite boussole fixée à son poignet par une courroie. La route au nord et attention à gouverner, conclut le bandit qui aussitôt emboîta le pas à Stein et pénétra avec lui dans la chambre des cartes. Le pansement exécuté maladroitement à la clarté incertaine d'un fanal fut fait tant bien que mal et les deux hommes ressortirent. Dans le lointain, les feux de la mer Main se distinguaient à peine. L'Atler, sa machine accélérant peu à peu son rythme, glissait au milieu d'un calme sinistre. Aussi instantanément qu'elle était tombée, la bourrasque reprit, couchant le petit navire sous sa puissante poussée. De nouveau, les coups de mer dévalèrent, heurtant la coque de l'Adler avec la force d'un marteau-pilon. Le vent était maintenant si violent qu'il produisait la sensation physique éprouvée par de nombreux marins d'une muraille, d'un corps solide contre lequel rien ne pouvait lutter. Et l'Adler, aux trois quarts recouvert par les vagues, avança, rampa plutôt, se cabrant à chaque nouvel assaut, sa machine époumonnée, soufflant et gémissant, interrompant son élan comme assommé, pour repartir à la seconde suivante avec des gémissements de bête fourbue. Chrysler et Stein, cramponnés dans un angle de la passerelle, assourdis par les mugissements de l'ouragan, la tête baissée sous les embruns qui se succédaient sans relâche, n'échangeaient pas un mot. De temps à autre, Chrysler rampait le long des rambardes pour aller consulter le combat de la chambre des cartes et s'assurer que l'homme de barre gouvernait bien dans la direction indiquée. Et les minutes s'écoulaient, toutes pareilles. Le cyclone, loin de se calmer, semblait redoubler de violence. Le baromètre, cependant, avait haussé de quelques millimètres. À la lueur d'un éclair, Stein reconnaît Chrysler. Il vit un visage dur et impassible, une face de marbre où ne se lisait aucun sentiment humain. Et pourtant, l'Atler, tremblant de toutes ses membrures, craquait, prêt à disséquer sous la formidable des lames. Chrysler devait évidemment se rendre compte que le petit navire était à bout de résistance. Et pourtant, il ne changeait pas la route. Un quatrième personnage apparut soudain sur la passerelle. Un petit homme enveloppé dans une pelisse de fourrure dégouttante d'eau. « Marbourg !» clama Schler en reconnaissant le nouveau venu. « Je vous avais défendu de quitter le compartiment frigorifique. Que veut dire cela ?» Marbourg, car c'était bien lui, n'entendit pas, tant était assourdissant les mugissements du vent et de la mer. Titubant, trébuchant, glissant sur les planches ruisselantes qui se dérobaient sous ses pieds, il parvint à atteindre la main courante du rouffle de la chambre des cartes et resta quelques secondes immobile comme assommé. Chrysler bondit vers lui. « Répondez, qu'avez-vous ? » hurla-t-il dans l'oreille de son acolyte, en lui abattant sa main valide sur l'épaule. Marbourg poussa un gémissement que le bandit n'entendit pas. Et se tournant vers Chrysler, il hoqueta. « Je suis blessé. Les prisonniers, un autre, un homme m'a attaqué. » Chrysler eut un haut-le-corps. Il avait entendu juste deux mots, « blessé, prisonnier ».« Les prisonniers ? » s'exclama-t-il d'une voix rauque. « Ils sont blessés ?»« Non, c'est moi, Herr Chrysler. On m'a attaqué. Les prisonniers sont délivrés. Ils sont sortis de la chambre de froid. Ils... » La passion augmente singulièrement l'acuité de nos sens. Un prisonnier en train de s'évader entend distinctement des bruits dont il ne percevrait rien dans la vie ordinaire. Un mineur fuyant devant le grisou et craignant pour sa vie flaire le moindre indice de ce gaz, là où, dans d'autres circonstances, il ne sentirait rien. Oh, la fureur, la déception, l'avidité se partageaient l'âme de Chrysler. Malgré le tumulte des éléments, il entendit très distinctement les paroles de son acolyte. En l'espace d'une fraction de seconde, il entrevit les conséquences d'une fuite de ses victimes, tous ses projets mis à néant. Lui, ruiné et poursuivi comme assassin par la justice, il vit l'ombre d'une potence se profiler devant lui. Les prisonniers ont fui, rugit-il en secouant sauvagement Marbourg, qui gémit de douleur. Mais tu es complice! Qui les a ranimés? Réponds! Chien, chien, oh! Lâchant Marbourg plus mort que vif, Chrysler tira son Browning et précipitamment fit feu. Sous le vent, à bâbord, un éclair venait de lui faire voir un groupe de 5 individus, 4 hommes et une femme, qui s'agitaient autour du You-You, de la seule embarcation encore intacte de l'Adler. Et malgré les effrayants soubresauts du navire, malgré les coups de mer qui les recouvraient incessamment, ils avaient déjà réussi à couper les saisines de l'embarcation et à la soulever à l'aide de ses palans des chantiers où elle reposait. Prestement, ils unissaient leurs efforts pour faire pivoter les bossoirs de façon à pouvoir descendre le You-You à la mer.